France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un Saint-Jean-Hiver, du roman culte au film culte. Tel était le titre il y a quelques années de la revue des Deux Mondes. Ce qui n'est pas totalement faux, mais qui oublie que le film en lui-même, 65 ans après sa sortie, est également devenu culte. D'abord parce qu'il s'agit de la première et de la seule rencontre à l'écran entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, et que le film symbolise le passage de témoin entre deux générations d'acteurs. Ensuite, parce qu'il est dialogué par Michel Audiard, orfèvre en la matière pour le cinéma des Trente Glorieuses, et parce que l'histoire originale, le livre du même nom, est signé Antoine Blondin, grand journaliste et grand romancier de ces années-là. Enfin, peut-être t'il tire son charme de la nostalgie d'une époque révolue et fantasmée, et par le côté très français d'une apologie d'ivresse. Ce qui a failli en faire interdire la sortie en salle, d'ailleurs. Notre invité aujourd'hui, Laurent Delmas, journaliste et co-présentateur de « On aura tout vu » les samedis matins sur France Inter. Il est l'auteur du podcast « La belle époque » et du livre « Jean-Paul Belmondo » paru chez Gallimard en 2023. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récits documentaires et rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Henri Verneuil, vous réalisez actuellement un singe en hiver. Pouvez-vous en quelques mots me dire quel est le thème d'un singe en hiver ?
Eh bien, il y a d'abord un premier thème à la lecture, au premier abord, qui apparaît. Ce sont des gens qui boivent, mais qui ne boivent pas comme tout le monde. Comme on dit dans le film, ils sont à 100 000 verres des ivrognes habituels. Quand Quentin, par exemple, interprété par Jean Gabin, boit, il est en Chine et il revoit Hong Kong, le Yangtze-Kiang, etc. Quand Fouquet, qui est joué par Jean-Paul Belmondo, boit, lui est à Madrid. Et puis, quand Madame Quentin boit, elle se rappelle de son voyage de noces et elle s'arrête à la Bourboule.
Ce reportage de l'ORTF est tourné en janvier 61 à Villerville, à quelques encablures de Deauville. Il y est précisé que ce jour-là, la mer est sombre, que les restaurants sur la plage sont fermés et que les touristes sont peu nombreux. Il y a comme une tristesse dans l'air normand. Jean Gabin a les cheveux blancs, Jean-Paul Belmondo un sourire désenchanté. Ils traînent tous les deux un spleen quasi baudelairien. Et même les dialogues de Michel Audiard donnent dans le mélancolique. Et puis le film est en noir et blanc. Pourtant, un singe en hiver est la rencontre de deux hommes qui boivent pour vivre en couleur. Enfin, ça c'est l'idée du film. Pour l'instant, Verneuil a autre chose à penser. L'hiver est enneigé à Villerville. Et pour des questions de raccord entre les prises de vue, il faut gommer la neige du paysage. Alors il fait commander des camions de terre pour la recouvrir. Et puis, plus ennuyeux, il mesure qu'entre ces deux vedettes, Gabin, 57 ans, et Belmondo, 32 mois, le courant ne passe pas trop, comme le plus jeune le raconte dans un livre sorti en 1963 intitulé « 30 ans et 25 films ».
Quand on m'a présenté à Jean Gabin, que je ne connaissais pas plus que vous et qui n'avait vu aucun de mes films, j'étais très impressionné. Lui ne pipe pas un mot et vous regarde comme si vous étiez un paillasson. Au bout d'un moment, cela devient gênant. Il semble se balancer totalement de ce qu'il va jouer ou ne pas jouer et l'on se demande s'il a remarqué votre présence. Il lit Paris Turf en mangeant et ne salue personne comme s'il était un inconnu dans le studio où il prend ses repas. Comme je n'ai pas l'habitude de lécher les orteils de ce genre de type, je l'ai laissé dans son coin. Nous déjeunions ensemble, il lisait son canard et moi l'équipe. On ne s'est pas dit un mot en 8 jours.
Mais Belmondo a également dans ce livre des mots très doux et très respectueux vis-à-vis de celui que le monde du cinéma appelle le vieux, avec un V majuscule. Gabin est pour le jeune acteur celui qu'on dit mauvais copain, mais qui a des amis de 30 ans. Celui qu'on dit fini, mais qui fait toujours les plus grosses recettes. Celui qu'on ne peut pas voir, mais qu'on va toujours revoir. Quand Jean-Paul Belmondo naît en avril 33, Jean Gabin a déjà 30 ans et presque une vie complète derrière lui. À 14 ans, il délaisse une scolarité hasardeuse pour enchaîner les petits boulots. Garçon de bureau, cimentier, manœuvre, magasinier, vendeur de journaux. Son rêve, conduire des locomotives. Il s'appelle encore Jean Moncorget. Son vrai nom, Gabin, ce sera pour plus tard. À 18 ans, son père le pousse sur scène, aux Folies Bergères. Le paternel est cafetier, mais chanteur d'opérette à ses heures perdues, et il connaît un peu de monde. Alors il espère que son bon à pas grand-chose de fils saura se faire une place au théâtre. Et figurant dans une revue de comiques troupiers, ce n'est pas si mal après tout. À 20 ans, le jeune homme quitte les planches et fait son service militaire dans la marine. À son retour, il se marie et retrouve le music hall, cette fois avec succès. Tour de chant, imitation de Maurice Chevalier. Il est le partenaire de Miss Tinguette, gloire nationale, dont la seule rivale est Joséphine Baker. À 24 ans, il fait ses débuts au cinéma au moment où celui-ci devient parlant. Ses premiers rôles sont maladroits, mais le réalisateur Julien Duvivier lui trouve un charisme exceptionnel, ce qui est indéniable. Il lui offre La Bandera, Pépé le Moko ou La Belle Équipe.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met...
La Seconde Guerre mondiale s'approche, mais Gabin remplit les salles. Le cœur des dames s'emballe quand il apparaît. Et malgré la pellicule en noir et blanc, le bleu de son regard imprime l'écran. Ce sont les années de Gueule d'amour, de La Bête humaine, de La Grande illusion, de Jean Renoir, de Marcel Carnet, de Jacques Prévert, du « T'as de beaux yeux, tu sais », adressé à Michel Morgan dans « Quai des brumes ». Ce sont les années fastes, ce sont les années Gabin. En 1938, souligne le petit Parisien, Fernandel fait plus d'entrées dans les salles. Mais Gabin a, toujours selon ce journal, un jeu sobre et ramassé, capable d'atteindre une puissance d'expression incomparable. Le magazine Marie-Claire, lui, évoque la force loyale de l'acteur, estime que sa popularité vient de la profonde honnêteté de son regard. Et puis la guerre arrive, et Gabin refuse de tourner, bien que les nazis lui fassent un pont d'or. Il traverse l'Atlantique, il retrouve Duvivier, Carnet, et surtout, il rencontre Marlène Dietrich, elle aussi exilée. Malgré leur liaison, malgré Hollywood, Gabin trépigne. Des gars se faisaient tuer pour nos pommes, dit-il. Et nous, on était peinards. Et moi, je supportais plus ça. Il tourne bien dans un film de propagande gaulliste. Mais ça ne lui redonne pas le goût du cinéma. Non. Ce qu'il veut, c'est se battre. Une anomalie, d'ailleurs, dans le cinéma français. Qui, pour une grande partie, s'accommode assez bien d'occupation allemande. Et plus, si affinité. Gabin, lui, ne veut pas être un planqué. Un artiste qui joue les héros à l'écran. Non. Il veut en être de cette guerre. Et il en est. Voici le texte de sa citation militaire.
Jean Moncorgé, dit Jean Gabin, s'est engagé aux États-Unis pour prendre part à la libération de la France. Embarqué sur le pétrolier Elorn, a contribué à repousser des violentes attaques d'avions ennemis au large du Cap Ténès. Volontaire, a pris ses fonctions de chef de char, devenant le plus vieux chef de char du régiment. A participé à toute la grande fin de la campagne de la 2e DB, de Royan à Berchtesgaden, faisant preuve des plus belles qualités d'allant, de courage et de valeur militaire.
On ne sait pas pourquoi, mais Gabin refuse, après la capitulation nazie, de défiler sur les Champs-Élysées avec les vainqueurs. Il aurait déclaré, voyant son char passer sous le balcon où il est installé, « C'est con, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y aller. » Mais parce que c'est Gabin, il retrouve tout de suite les plateaux de tournage, dès 1946. Alors tout pourrait reprendre comme avant, quand il était au sommet. Mais quelque chose semble cassé en lui, et entre lui et le public. Bon, ces films ne sont pas boudés, c'est juste que leur succès est plus feutré. Il achète une propriété en Normandie qu'il agrandit en rachetant les terres autour pour y installer toujours plus de vaches et de chevaux, ce qui provoquera des conflits avec les agriculteurs locaux. Pendant ce temps, le cinéma d'après-guerre éclaire de nouveaux visages. Jean Marais ou Gérard Philippe, et celui de Gabin est moins frais. Il ne vit pas une traversée du désert, mais une éclipse, comme il le dit à Léon Zitrone, quelques années plus tard, devant la caméra de la RTF.
J'ai eu une éclipse, je vais vous dire pourquoi. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Alors je me suis cherché un peu, j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. J'avais 10 ans de mieux et ces 10 ans, je les avais physiquement en plus et sur mon visage. Et puis j'ai eu la grande chance, parce que vous savez, il y a une énorme part de chance qui trône dans ce métier. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby.
Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin. Bon. Et je crois que s'il fallait...
Je vous en parle de vous couper, Zitron. Oui. Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup.
Un grand journaliste a dit de lui, il faudra avoir vu Jean Gabin dans le rôle de Max, comme il faut avoir vu Charlot dans La Ruée vers l'or.
Tiens, gaffe. Regarde les valoches que t'as en dessous les yeux, regarde les miennes. Et ça, tu crois que c'est beau, hein? Alors, mon pote, crois-moi, faut raccrocher, voyons. J'exagère, Max. Non, j'exagère pas, non. J'ai du chou, moi.
Touchez pas au Grisby. Ah, il en rapporte beaucoup, de Grisby. Le film fait 5 millions d'entrées à sa sortie en 1954. Réalisé par Jacques Becker, avec Jeanne Moreau et un débutant nommé Lino Ventura, cette histoire de truand en fin de carrière réinvente Gabin. Il n'est plus la gueule d'amour, il est le dab, le vieux, le parrain. Il n'a pourtant que 50 ans, mais il en fait un peu plus, avec sa brioche et ses habitudes de vie. Il confie aimer rentrer chez lui, mettre ses pantoufles et regarder la télé. En l'espace d'un film, l'acteur a mué, il est devenu un autre Gabin. Le sourire charmeur s'est transformé en expression ronchonne, en visage buté, mais ça marche. Radia sur la chenouf, la traversée de Paris avec De Funès qui débute, Maigret tend un piège, Les Misérables, En cas de malheur avec Bardot, Le Président, Le Cave se rebiffe, Les Vieux de la Vieille. Gabin et son air renfrogné impriment des kilomètres de pellicule. Il est le menhir du cinéma, un homme de granit qui se contrefout de ce qui se passe autour de lui. Avant de rencontrer Belmondo, il n'a pas vu un seul de ses films. Il demande même à son agente « C'est qui ce Belmondo ?» Dans un article du journal Le Monde, le critique cinéma Samuel Blumenfeld écrit « Aux yeux des cinéastes de la nouvelle vague, Gabin incarne un cinéma académique qui se tourne en studio, que certains jugent dépassé, mis au placard par un cinéma affranchi, conçu à l'air libre, celui d'un bout de souffle. » Il est question du film abscon de Godard, évidemment. Un jour, l'attaché de presse et biographe de Gabin pose la question à l'acteur. Vous en pensez quoi, vous, de la nouvelle vague, là, de ces Godard, de ces Truffaut? Gabin répond ceci.
Qu'est-ce qu'ils croient, ces petits morveux de la nouvelle vague? Que je suis fini? D'abord, en quoi il est nouveau, leur cinéma? Leur film raconte une histoire, non? Moi, je suis pour les histoires. Et la nouvelle vague, je sais ce que c'est. Avant la guerre, c'était moi. Je sais qu'il y en a parmi eux qui ont du mal à monter leur film. Qu'ils viennent me voir, je les aiderai, comme j'ai aidé Carnet, Renoir. S'il m'offre un beau rôle, quelque chose d'intéressant, qu'ils tournent ça en mettant la caméra au plafond ou en filmant à travers leur poche, qu'est-ce que j'en ai à foutre si le résultat est bien?
Et Gabin ne tournera jamais avec les réalisateurs de la nouvelle vague. Et pourtant, confie Mathias, son fils, il aurait aimé tourner avec eux. Un jour, nous avons dîné avec Claude Chabrol. Quand il a su que papa n'attendait que ça, il s'est décomposé. Il n'avait jamais osé lui demander. Et pourtant, il ne rêvait que de ça. Gabin veut donc bien tourner avec la nouvelle vague, ce qui ne se fera jamais. Alors que Belmondo, lui, veut prouver qu'il n'est pas qu'un acteur de la nouvelle vague ou le nouvel acteur en vogue. Alors que débute le tournage d'Un singe en hiver, Belmondo est le comédien qu'on s'arrache. Il est aussi résistible qu'un Gabin d'avant-guerre. Le vieux a eu Duvivier, Renoir et Carnet. Le jeune à Jean-Luc Godard, Claude Sauté ou Jean-Pierre Melville. À bout de souffle, Classe au risque ou Léon Morin-Prêtre.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
New York Herald Tribune.
Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope?
L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi?
Moi aussi.
L'Angélus, vous connaissez? Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Vous devriez vous vernir les ongles des orteils.
Ça vous plairait de m'aider?
Oui.
Le type qui est derrière, il a eu une histoire avec sa femme. C'est pas la première, mais cette fois, elle lui a tiré dessus.
De lui-même, Belmondo écrit « Je me suis fait comédien parce que j'aimais faire la grasse matinée ». Évidemment, c'est faux. À 5 ans, Belmondo voulait devenir comédien, et pas autre chose. C'est juste qu'il ne voulait pas l'avouer aux autres, à ses parents surtout. Il dit de son père, sculpteur renommé, qui lui a appris l'amour de la vie dans ses plus belles choses. De sa mère, artiste peintre, qu'elle avait un sourire limpide qui illuminait tout ce qu'elle approchait. Des deux d'ailleurs, il ne peut se souvenir d'une seule mauvaise journée passée en leur compagnie. Et puis quand on a des parents artistes, c'est évidemment un terrain favorable pour le devenir à son tour. Contrairement à Delon, qui lui n'avait aucune connexion avec le milieu, un père indigne, il a dû se construire seul, à force de personnalité. Ce qu'il n'aime pas, l'adolescent Belmondo, c'est l'école. Il finit toujours par en être renvoyé pour indiscipline, du collège Blaise Pascal à l'école alsacienne, en passant par les prestigieux lycées Henri IV ou Louis le Grand, en bon fils de Bourges. Ce qu'il y a appris dans ces lycées, il le résume ainsi. Dans la cour, il vaut mieux se battre à 4 contre 2 qu'à 2 contre 4, ce qui est très sage. C'est d'ailleurs dans une cour de collège qu'il se fait casser le nez, et non, comme le dit la légende, à la boxe, qu'il pratique, certes, mais en amateur. Entre parenthèses, celui qui s'est vraiment fait écraser le nez en pratiquant le noble art, c'est Gabin, pas Belmondo. Mais voilà un point commun entre les deux hommes, le nez cabossé. Les professeurs d'art dramatique que Belmondo fréquente pour apprendre le métier sont comme ceux de ses années lycée, pas convaincus du tout. André Bruno, son premier professeur, lui conseille de se lancer, je reprends son expression, dans l'industrie privée ou les expéditions polaires, et le supplie d'abandonner le métier de comédien. Pierre Dux, au conservatoire, affirme lui qu'avec la gueule qu'a Belmondo, jamais il ne pourra tenir une jolie femme dans ses bras. Comme quoi, André Bruno n'était pas de bons conseils, et Pierre Dux pas franchement visionnaire. Quelques années plus tard, en effet, Belmondo descend les Champs-Élysées au bras de sa compagne de l'époque, la très belle actrice Ursula Andress. Alors il y croise Pierre Dux, à qui il dit « On fait ce qu'on peut ». Ce que garde Belmondo du conservatoire, ce sont les amitiés solides, celles qui traversent une vie. Guy Bedos, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, entre autres. Et puis il y a les événements qui changent une vie. En 1960, sort À bout de souffle, le film que Belmondo appelle son prix Goncourt. Dans son livre, sorti en 1963, il écrit.
La veille du premier tour de Manivelle, Jean-Luc n'avait pas écrit une ligne de scénario. « Tu sais au moins ce que tu vas faire ?» lui demandai-je. « Non, » me répondit-il. Je me satisfaisais de cette explication interminable et rentrais chez moi. Au bout de quelques jours de tournage, j'ai été conscient que nous participions à une œuvre importante. Nous nous casserons la gueule ou nous réussirons, mais nous serons hors des sentiers battus. Quand nous avons assisté avec inquiétude à la première projection, nous avons été soulagés. Nous avions gagné. Après avoir vu le film, Jean Cocteau a attendu qu'une centaine de personnes de la meilleure société se rassemblent autour de lui pour dire « Ils ont réussi ce que tous les autres ont raté ».
Revenons sur le tournage d'Un singe en hiver en ce mois de janvier 61. À ma droite, Gabin, l'ancien jeune premier prématurément vieilli et ronchon. À ma gauche, Belmondo, le nouveau jeune premier éclatant de vitalité. Henri Verneuil, le réalisateur et arbitre du jeu, les regarde, très ennuyés, les deux se font la gueule.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, à Saint-Jean-Hiver, Gabin et Belmondo sur un plateau.
Embrasse-moi, mec!
Affaire sensible.
Tiens, t'es mes 20 ans!
Fabrice Drouel.
On y va!
Au bout de 8 jours, Gabin et Belmondo s'adoptent. Ce n'est pas grâce à Henri Verneuil, le réalisateur, ni à Michel Audiard, le scénariste, ni à personne d'autre. Non, c'est grâce au sport. Vous vous souvenez de ce que racontait Belmondo au tout début du récit? Qu'il lisait l'équipe dans son coin quand Gabin lisait Paris Turf de l'autre? Eh bien, tout part de là, de la boxe. Un peu comme on est Platini ou Zidane, Gabin ne jure que par Georges Carpentier, premier champion du monde français en 1920, Belmondo par Marcel Cerdan, champion du monde en 48. Question de génération, évidemment. Mais cette querelle des anciens et des modernes les rapproche. Les deux se retrouvent à faire du vélo ensemble ou à jouer au foot sur la plage. Charles Gérard, acteur et ami de Belmondo, se souvient, dans Paris Match, du jour où Gabin marque un but à Belmondo. Oh, le jour d'après, toute l'équipe du film ne parlait que de ça. C'est devenu un tournage extraordinaire. Gabin, Audiard et Jean-Paul ne parlaient que de foot, de cyclisme et de boxe. Ah, ils étaient incollables, ils connaissaient tout. Un jour, j'ai voulu donner mon avis. Ils m'ont dit « Toi, tu écoutes et tu fermes ta gueule, un point c'est tout ». Et Audiard a ajouté « Le jour où les cons seront sur orbite, t'as pas fini de tourner ». Un Saint-Jean-l'Hiver est donc la rencontre de deux acteurs et un peu aussi celle de deux auteurs. Michel Audiard pour les dialogues et l'adaptation et Antoine Blondin pour l'histoire originale, publiée en 59.
Antoine Blondin, on vient d'apprendre que vous avez eu le prêt interallié. Quel effet cela vous fait-il ?
Je suis extrêmement content. Je suis content pour ma famille, je suis content pour mes créanciers, je suis content pour mon percepteur, parce que j'ai l'impression que ça va aussi faire plaisir à tous ces gens-là.
Comment pourriez-vous le définir ?
Mon livre, c'est un livre sur l'amitié, essentiellement par certains moyens, qui sont les moyens de l'alcool et les moyens d'une... Enfin, tout ce qui peut aider l'homme à surmonter la solitude.
Merci beaucoup.
Dans la revue des Deux Mondes, à propos de Blondin et Audiard, Pierre Assouline écrit « On écoute les dialogues de l'un, on lit les livres de l'autre, et on se dit que la vie aurait été vraiment injuste si ces deux-là s'étaient ratés. Tu l'as dit. Et pourtant, ils n'ont qu'un film en commun. Parce qu'il y a comme une histoire de famille dans tout ça. Gabin et Audiard, c'est 5 films ensemble. Gabin et Verneuil, 5 également. Verneuil et Audiard, 9. Belmondo et Verneuil, 7. Quant à Blondin, dont Belmondo est le double fictif dans Un Saint-Jean-l'Hiver, l'acteur le croise beaucoup à Saint-Germain-des-Prés, pas toujours à jeun. Dans un état d'ébriété folle, Blondin faisait le dingue devant la Romerie, toujours au bord de se faire empaler par l'une des voitures à la tête desquelles il se jetait. Cette scène de tauromachie automobile Eh bien, elle est dans le livre et dans le film, bien sûr. Les jours de tournage s'enchaînent, Gabin et Belmondo deviennent plus que complices. Le plus vieux tutoie le second, qui vous voit le premier. Mais c'est juste une question de respect, de génération, pas de distance. Mille fois, on demande à Jean-Paul s'il n'est pas le nouveau Jean, et à Jean s'il se retrouve en Jean-Paul. Les deux éludent ou jouent de cette idée de la transmission. D'ailleurs, c'est un peu le sujet du film. Gabin est Albert Quentin, un ancien marin nostalgique de sa jeunesse militaire en Extrême-Orient, qui remonte en rêve le Yangtze. Il tient un hôtel à Tigreville avec sa femme. Il a arrêté de boire. Belmondo, lui, est Gabriel Fouquet, un jeune publicitaire qui boit pour oublier un échec sentimental, un amour laissé à Madrid. Il est à Tigreville pour y voir sa fille placée en pensionnat. Voilà, rien de très joyeux, le vieux qui ne boit plus, le jeune qui boit trop. Leur histoire est comme un miroir qu'ils se tendent. Jusqu'à ce que les reflets se confondent, quand Albert, après 15 ans d'abstinence, replonge.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train.
Et ce n'est qu'un coup de semonce.
Et laisse les dents, ils sont ronds comme des boules.
Oui, monsieur. Plein comme la mer, en suc et en bord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein. Et ben ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gayer vos soirées d'hiver.
Ah. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et lesquels, va, qui c'est qui va les payer?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
Belmondo confesse. Dans toutes les scènes d'ivresse, j'ai l'air d'un petit garçon auprès de lui. Il est inoubliable quand il court sur la plage. Vieil homme lourd et pitoyable, possédé par le démon de la jeunesse et le démon d'alcool. Gabin, lui, raconte à tous les journalistes de passage que le cinéma a son successeur, celui qui aurait pu tenir ses rôles d'avant-guerre aussi bien que lui. Il m'a prédit une grande carrière, écrit Belmondo. Et il m'a dit, regarde ta fiole, merde. T'auras les cheveux blancs que tu plairas encore aux gonzesses. Alors te mine pas la devanture et laisse couler l'Orénoque. Même sans connaître l'argot, on mesure la portée des compliments. Bref, tout se présente bien pour la sortie du Saint-Jean-d'Hiver qui doit être projetée à Cannes. Mais, et c'est une réplique du film, les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Le 15 avril 62, France Inter douche l'enthousiasme de l'équipe du film.
La censure en la personne du représentant du ministre de la Santé vient de s'opposer à la sortie du film « Un Saint-Jean-d'Hiver » réalisé par Henri Verneuil d'après le roman d'Antoine Blondin, avec notamment Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Motif du refus du visa, le sujet traité est de nature à favoriser l'alcoolisme. Un Saint-Jean-d'Hiver devait être projeté en première mondiale à Paris demain. Il sera projeté cet après-midi à 17h30 en privé dans un cinéma de Cannes. Après quoi, selon toute vraisemblance, il sera relégué dans les oubliettes du cinéma.
Un Saint-Jean-d'Hiver heurte donc le ministère de la Santé. Bon, c'est vrai que, comme l'écrira des années plus tard le critique de cinéma François Forestier, le film est la plus belle cuite du cinéma, reléguant même la scène de la cuisine des tontons flingueurs au rayon de l'aimable plaisanterie. Mais plus encore que les scènes d'ivresse, ce qui choque le gouvernement, ce sont les marques d'alcool présentes dans le film partout. On en voit affichées sur les murs des décors, sur les cendriers posés sur les tables, ce qui paraît quand même assez logique pour un film tourné en partie dans des bistrots. Pas censuré, mais assorti d'une interdiction moins de 18 ans, Un Saint-Jean-d'Hiver sort dans les salles en 62 et fait 2 millions d'entrées. C'est bien évidemment 2 millions, mais c'est peu par rapport au carton du jour le plus long, 8 millions d'entrées, ou à celui de la guerre des boutons, 6 millions. Le film de Verneuil se classe ainsi 15e au box-office de l'année. Et la critique est, disons, partagée. François évoque une réussite complète, un résultat qui dépasse les espérances, mais Téléciné, une œuvre piètre et révoltante. À peine plus mesurée, voici un extrait du Masque et de la Plume du 17 mai 62. Au micro, Yvonne Babi et Jean-Louis Borry.
Oui, le roman est admirable, mais le film est très très mauvais.
C'est un roman, le roman de Blondin, qui est un roman fait de délicatesse, de pudeur, de tendresse en grisaille. C'est un roman qu'il faudrait lire, si j'ose dire, si j'ose risquer cette image, sur la pointe des pieds. Or, vous voyez M. Gabin marchant sur la pointe des pieds. Pas possible.
C'est votre opinion aussi, Yvonne
Babi? Oui, c'est mon opinion. Et c'est vraiment le bon vieux cinéma français. Et il ne se passe rien, parce que jamais dans ce film, il se passe quelque chose. Enfin, vraiment jamais. Sauf à de rares instants, grâce à Belmondo. Mais qui, quelquefois, du reste, lui aussi joue mal. Enfin, se sent très mal à l'aise. Hein.
Parce qu'il y a une contagion, naturellement. Il est avec des vieux chevaux de retour qui montrent à ce blanc-bec comment il faut jouer le cinéma. Bon. Et le malheureux Belmondo se laisse impressionner à tort.
65 ans plus tard, Un singe en hiver est un film culte. Il n'a pourtant rien d'extraordinaire, c'est vrai. Verneuil n'est pas connu pour être un révolutionnaire de la prise de vue. Gabin fait encore du Gabin, et Belmondo fait déjà du Belmondo. Et puis le film est triste, malgré les fulgurances de Michel Audiard. Dans son livre, Blondin écrivait que la constitution d'un patrimoine collectif ne s'opère jamais mieux que devant un verre. Alors, le film appartient-il au patrimoine collectif parce que nous sommes et le revendiquons parfois un pays qui fait bon ménage avec l'alcool? Ce sera un peu simpliste, mais pas totalement dénué de sens. Est-ce que c'est parce qu'il nous évoque fantasmer un « c'était mieux avant » du temps des bistrots à chaque coin de rue de chaque village? Ou parce qu'il est un film de transmission, d'amitié, de générations qui se croisent sans se parler plus que le temps d'une biture? Belmondo et Gabin ne feront que ce film-là ensemble. Gabin et le grand Alain Delon, la vraie superstar du moment, en feront trois. Bien sûr, ils se croisent parfois, quand ils tournent sur les plateaux voisins d'un studio. Ou comme ici, en 74, pour les adieux de Louis Seignier, un acteur de la Comédie française.
Et vous, Jean Gabin, vous auriez aimé être de la Comédie française?
Moi, j'aurais pas pu. Pourquoi? Parce que j'ai un défaut rédhibitoire. J'apprends jamais mon dialogue. Mais lui, fait comme moi. Mais si, on me l'a dit.
Mais il m'avait dit que quand on a joué ensemble, c'était bien, j'étais sûr que vous ne saviez pas le texte. Comme ça, je n'apprenais pas du tout.
Et ben... Oui, c'est vrai, d'ailleurs. On a fait un beau film ensemble.
Ça, hein? Vous vous ressemblez tous les deux?
Ah, oui. C'est-à-dire, il est beaucoup plus décontracté que moi. Moi, j'ai jamais été décontracté. J'aime bien être avec lui. On a bien rigolé, d'ailleurs.
C'est vrai.
On a bien rigolé. Tu te rappelles quand on jouait au football sur la balle, oui.
Si vous avez un ballon...
Peut-être que finalement, Un singe en hiver nous touche parce qu'il est le récit d'une parenthèse dans deux vies, d'une simple parenthèse. Gabin alias Albert Quentin et Belmondo alias Gabriel Fouquet n'y trouvent qu'une amitié éphémère avant que chacun ne reprenne le cours de sa vie.
En Chine, quand les grands froids arrivent, toutes les rues des villes, on trouve des tas de petits singes égarés sans père ni mère. On sait pas s'ils sont venus là par curiosité ou bien par peur de l'hiver, mais comme tous les gens là-bas, croient que même les singes ont une âme, ils donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on les ramène dans leur forêt, pour qu'ils retrouvent leurs habitudes, leurs amis. Et c'est pour ça qu'on voit des trains pleins de petits singes qui remontent vers la jungle. Allez, au revoir.
Au revoir.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Un singe en hiver, film dont nous parlons avec notre invité Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Faites comme chez vous, vous êtes chez vous.
C'est gentil.
Parce que vous êtes journaliste et co-présentateur de On aura tout vu les samedis matins sur France Inter et l'auteur du podcast La bébé l'époque. Moi j'aime beaucoup ce titre, bien vu. Non, franchement. Et du livre Jean-Paul Belmondo paru chez Gallimard en 2023. Alors d'abord, comment expliquez-vous que ce film soit devenu un film culte, souvent rediffusé, souvent cité? Alors qu'à l'époque de sa sortie, il a du succès, bien sûr. Enfin, c'est pas non plus un raz-de-marée dans les salles, parce que franchement, au-delà du charme des comédiens, il se passe pas grand-chose en termes de scénario. On s'ennuie.
Oui, oui, c'est vrai, c'est toujours très étrange hein, de devoir dire pourquoi un film devient culte en plus, pourquoi il n'a pas été au début et pourquoi il le devient. Vous avez cité un certain nombre de raisons et que je trouve tout à fait juste sur la transmission, l'alcoolisme joyeux, etc. Voilà. Moi, je pense que contrairement à ce que disait d'ailleurs Yvonne Babi et Jean-Louis Borry au Masque et la Plume, il y a quand même une forme de réussite de l'adaptation du livre dans la mélancolie. Je trouve que c'est un très beau film mélancolique et qu'après tout, eh ben, il y a pas que la gaudriole qui peut plaire et qui peut faire culte. Au contraire, je pense que la mélancolie, parce qu'elle habite nos vies et quand elle est si bien transmise sur grand écran, ça passe. Alors, Audiard a fait un peu une exception hein, parce qu'il disait mieux vaut adapter un mauvais livre, ça peut faire un bon film. Bon, là, cette fois, il a adapté un très beau livre. Forcément, le film est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'on la langue de Blondin, elle est pas là et c'est normal. Mais je crois que malgré tout, peut-être malgré lui, Audiard, qui était un profond mélancolique, voire un dépressif, a réussi à capter des choses quand même dans le film et que ça continue à se transmettre sous cette forme quand même assez fascinante. Oui, il se passe pas grand-chose et pourtant, sous forme d'une sorte de chronique, on suit et on adhère.
Ouais. Alors, le film recueille des critiques très dures à sa sortie, ça va mieux après, on l'a dit, mais elle se concentre sur Jean Gabin, Paul Francoeur, les acteurs de l'ancienne génération, sur le manque d'originalité d'Henri Verneuil, et ces critiques épargnent Belmondo, comme si le film rejouait la querelle des anciens et des modernes. C'est ce que vous voyez aussi, vous?
Oui, alors on pourrait citer aussi la critique de Truffaut, hein, qui dit mais il y a quelque chose à sauver indéniablement dans le film, c'est Jean-Paul Belmondo. Et d'ailleurs, avec cette phrase incroyable, il dit d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que Belmondo pourrait rejouer tous les rôles qu'a joué Jean Gabin auparavant.
Les Gabin le disaient aussi.
Oui, mais voilà. Ouais. Il y a évidemment un dialogue, il y a évidemment un passage de relais, il y a évidemment l'idée que dans ce duo-là, c'est le moment où le vieux passe le relais au jeune, dans une sorte effectivement d'osmose assez proche, parce que je pense que ce qui a finalement touché Gabin, c'est que je pense qu'il se voit jeune
à travers
Belmondo. Ouais. Ce qui sera pas du tout le cas avec Delon, ça sera tout à fait autre chose qui va se jouer avec Delon. Avec Belmondo, ce que retrouve Gabin, c'est sa jeunesse, c'est sa gouaille, c'est un peu presque le toc-toc badaboum, hein, une époque Gabin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, avant-guerre, c'est quand même un peu ça, le musical, tout ça, bon... Avec Belmondo, il retrouve ça, le temps d'un film, mais juste le temps d'un film, parce qu'il faut y insister, ce sera leur seule collaboration.
Hein. Et avec Delon, qu'est-ce qu'il y trouve au passage, oui, dans le cinéma français.
Eh ben avec Delon, pourquoi ça marche avec le vieux Gabin, c'est parce que il trouve en Delon une sorte de hiératisme partagé, c'est-à-dire que Gabin se fossilise et se minéralise, et Delon, c'est déjà du minéral. Presque à l'époque. Hein. Ça devient le minéral chez Melville, mais ça devient ça. Or, c'est exactement l'image que va avoir Gabin. Donc, ça n'est plus du tout le juvénile, c'est l'âge qui vient et le côté comme ça grave, posé, un peu un rock. Et ça, Delon l'incarne très très bien, et c'est pour ça que ça va donner trois films du côté de Delon, un seul film avec Belmondo. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il y a bien une double transmission, mais je dirais que Belmondo, c'est la transmission avec le Gabin d'avant, et avec Delon, c'est la transmission avec le Gabin d'après.
Le fils de Jean Gabin dit que son père aurait adoré tourner avec la Nouvelle Vague, et que certains des cinéastes de cette mouvance auraient aimé tourner avec lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça aurait pu marcher?
Bon, ça c'est toujours l'éternel débat, et puis il y a ce que disent les enfants sur les pères, c'est toujours touchant, ça refait un peu l'histoire. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que Gabin, par exemple, quand il tourne avec Belmondo Un Saint-Jean d'hiver, mais il n'a pas vu À bout de souffle. C'est-à-dire qu'il a quand même raté totalement le film qu'il fallait voir à ce moment-là. Alors bon, ça n'a pas été un immense succès, mais quand même... Et en plus, Gabin n'allait pas beaucoup au cinéma, hein, comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs, contrairement à ce qu'on croit. En fait, je pense qu'à l'époque, La Nouvelle Vague, il s'en fiche, voire même étant inclus dans quand même la grande famille Audiard, Blondin et d'autres, qui est plutôt une famille de droite, faut le dire, il n'est pas du tout à l'écoute de ce courant-là. Ce qu'on constate quand même, c'est que les Patriarches et Gabin, à partir de La Nouvelle Vague, Et dans la catégorie patriarche, il y en a très peu dans les films de la Nouvelle Vague. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est plutôt les jeunots, les jeunettes, mais les patriarches, pas beaucoup.
Ce qu'ils appellent le cinéma de papa.
Oui, absolument, tout à fait.
Dans votre livre sur Belmondo, la critique de cinéma Ginette Vincendo dit à propos du film, c'est l'histoire de deux hommes qui s'enivrent dans un monde où les femmes sont des empêcheuses de tourner en rond, pour le dire poliment. Je vous propose d'écouter un extrait qui montre qu'elle a raison.
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande.
L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça me rappelle aussi certains dialogues des films de cette époque, les hommes qui disaient à leurs femmes, quand les hommes se réunissent, laisse-nous, c'est même pas laisse-nous s'il te plaît, va-t'en.
Bien
ça
sûr,
passerait plus tout ça.
Bien sûr, fais les valises. Pour cette génération-là, pour une partie de cette génération-là, les Audiard, les Verneuil, etc., les femmes sont des emmerdeuses. Il faut le dire, et moi je pense que Ginette Vincendo a parfaitement raison, et je pense que ce sont des gens qui rêvent d'un monde sans femmes. Non seulement elle nous emmerde, mais au fond, on serait bien plus heureux sans elle.
C'est des masculinistes avant l'heure.
Oui, absolument. Alors avec la tentation après, je pense que ça ferait la rêverie, la joie des psychanalystes, c'est qu'il y a une petite tendance homosexuelle derrière. C'est-à-dire qu'à force de marginaliser, de dire aux femmes partez, on reste entre hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer si on reste totalement
tiens
entre
donc,
hommes? Forcément, il y aura peut-être un peu d'homosexualité qui va pointer le nez. Mais il y a plusieurs film, 100 000 milliards de dollars au soleil, Ventura et Belmondo se retrouvent seuls dans une piscine à la fin du film. Ils ont été grugés par une femme, et la morale du film, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on est mieux sans les femmes, quoi. Qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter? Elles viennent perturber nos belles amitiés, nos belles relations. Malheureusement, en quelque sorte, Un singe en hiver, ça dit ça aussi.
France Inter. Sensible.
Laurent Delmas, Un singe en hiver sort donc au début des années 60 et la filmographie de Belmondo alors donne l'impression que pendant ces années-là, il choisit un peu de délaisser le cinéma d'auteur pour le cinéma populaire. Cette impression est juste?
Peut-être qu'il faut un peu la nuancer, la mesurer, parce que si on fait le compte des années vraiment des années 60, c'est-à-dire de 60 à 70, vous avez deux Melville, deux Verneuil, deux de Broca, mais un Godard, et pas n'importe lequel, Pierre Roulefou, un Truffaut, La sirène du Mississippi, un Louis Malle, Le voleur, qui est un des plus beaux films à mes yeux de Belmondo, alors oui, aussi deux Jean Becker, un Lelouch. Vous voyez, c'est quand même assez contrasté, il y a une sorte de balancement, de va-et-vient. Ça pèse plutôt vers le cinéma populaire, je dirais 2-1 pour le cinéma d'auteur, mais quand on voit les films d'auteur que c'est quand même du lourd et du très très bon. Le problème, on le sait bien, c'est que la fracture pour Belmondo, c'est 1974, donc un tout petit peu après les années 70, enfin dans les années 70, après les années 60, c'est Stavisky de René, d'Alain René, et là il ressort de la projection cannoise un peu sous les huées, en tous les cas sous le fait que le public n'a pas aimé, et où il dit plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais de film d'auteur. S'il n'est pas aimé pour ce film-là, ou pour ce genre de film-là, pense-t-il, alors il faut faire Le Guignolo, enfin bon, tous les films...
Le bon copain qui fait les cascades que jamais mort.
Voilà, exactement.
Toujours décontracté.
Qui renaît toujours, quel sourire aux lèvres, qui fait des cascades à tour de bras dans Peur sur la ville. Ce Belmondo qui effectivement marche, alors ça va décélérer, au bout d'un moment ça marchera moins, mais en tous les cas, effectivement, avec une marque, vous savez, la graphie Belmondo sur les affiches, toujours la même graphie, enfin, une image très contrôlée avec son ami René Château. Donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai choix qu'il fait et que Delon ne fera pas. C'est-à-dire que Delon, contrairement à Belmondo, continuera presque jusqu'au bout à prendre des risques, une part de risque. Ah, pas, oui. Pas tout le temps, mais vraiment une part de risque.
Bien sûr, y compris avec Bertrand Blier, notre histoire.
Notre histoire.
Un amour de Swann.
Mais oui, mais bien sûr.
Le baron Charlus, c'est fantastique.
Tout à fait, tout à fait. Et Monsieur Klein, qui est l'un de ses films.
Je pense que vous aviez noté mon admiration pour Delon. Hein.
Alors,
Belmondo, quand même, il revient à un cinéma d'auteur avec Itinéraire d'un enfant gâté, chez Lelouch.
Bien sûr, oui. Alors bon, c'est quand même Lelouch, c'est un peu à la frontière. Hein,
c'est populaire et auteur.
C'est populaire et très 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 populaire et un petit peu auteur. On va faire comme ça la définition de Lelouch. Mais c'est quand même justement, mais c'est quand même pas une prise énorme de risque parce que c'est Lelouch. Ouais. Franchement, ça n'a rien à voir avec une fois de plus qu'a fait Delon.
Alors le cinéma de ces années-là est marqué aussi par l'auteur Audiard.
Oui.
Aujourd'hui, on ne dit pas on va voir un texte écrit par. À cette époque-là, on pouvait dire on va voir un Audiard.
Je suis pas certain quand même.
Ah bon?
J'ai
rien dit.
Non, mais il y a le poids des scénaristes dans le cinéma français, il est très important et on a tout le plaisir de savourer les dialogues d'Audiard, mais on pourrait aussi penser à Janson, à Henri Janson avant lui, et puis après lui à Jean-Loup Dabadie. Bref, il y a une vraie histoire, il y a une vraie architecture de des dialogues et des scénario en France, c'est clair. La nouvelle vague, d'ailleurs, s'est en partie levée contre ça, hein, en disant il y en a marre de ces adaptations de livres faits par des gens qui ne font que les mots d'auteur dans les films, etc. Le problème, quand même, c'est que y a une réponse qu'on peut faire, c'est que quand Audiard réalise des films, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes de films et c'est des
chacun son métier.
Oui, c'est vrai, mais je veux dire par là, donc ça veut dire que la marque Audiard, si vraiment la marque Audiard était si énorme que ça, quand il réalise un film, ça devrait entre guillemets cartonner. J'aime pas ce mot, mais ça ne cartonne pas. Donc c'est bien qu'il y a quand même un primat à l'époque. Des stars, des acteurs d'abord, ouais. Que le réalisateur a aussi toute sa place, les Verneuil, les Houry, les Lautner, bien entendu, et qu'on a l'impression, mais ça c'est la place aussi du scénario en France, hein, qui est pas aussi reluisante qu'on le croit, alors que le scénariste est le co-auteur du film, le scénariste vient en troisième position, et que j'ai pas l'impression qu'effectivement qu'il y ait eu une adhésion des spectateurs au scénariste.
Ouais. Peut-être plus maintenant, encore par nostalgie peut-être.
Peut-être. Maintenant par rapport au scénario, oui, d'antan, vous avez raison, absolument.
Alors, puisque vous êtes critique de cinéma, je vais vous demander deux regards critiques et on terminera l'interview de cette façon. 60 ans après la sortie du film, le critique de cinéma François Forestier écrit qu'Un singe en hiver est la plus belle cuite du cinéma, on l'a dit dans le récit. Certains diront que la plus belle, c'est la scène de la cuisine, évidemment Ventura Blier dans Les Tontons Flingueurs. Vous avez un avis?
Oui, et puis d'autres diront que c'est celle des Bronzés Fonds du Ski. Dans un chalet où on se partage un alcool très très fort, Piper et Asticot à l'appui. Bon, je crois qu'on pourrait les multiplier. Alors moi j'ai un tout petit coup de cœur, si vous permettez, pour un film qui s'appelle Après vous de Pierre Salvadori, où l'étonnant José Garcia joue un déprimé, dépressif, suicidaire qui boit aussi. Mmh. Et le mélange de la dépression et de l'alcool chez José Garcia, ça donne, par Pierre Salvadori, avec des dialogues de Pierre Salvadori, ça donne un petit bijou de cinéma sobre. Et ça, ça me plaît beaucoup.
Alors, Un singe en hiver, selon vous, c'est un bon film ou pas?
Oui, non, mais je crois qu'il faut le voir avec, effectivement, maintenant la distance. Mmh. Et je crois que ça reste, une fois de plus, sur la mélancolie, pour moi. C'est ça qui me plaît le plus dans ce film. C'est un film triste. Ben, il y a des grands films tristes. Je crois que celui-là en fait partie.
Bien, merci infiniment, Laurent Delmas.
Merci, Fabrice.
À très vite, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui à Saint-Jean-l'Hiver, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Anne-Laure Cochet.